Moi, je le dis, hein, je m'excuse de pas être morte, hein, mais j'aurais très bien pu. Alors là, peut-être que j'aurais été prise au sérieux. Et encore.
Ces mots sont terribles. Ils résument bien le mur contre lequel se heurtent souvent les femmes victimes de violences conjugales. Le mur de nos institutions, police, gendarmerie, justice.
Moi, j'ai trop vu dans les dossiers des situations où on demandait aux femmes de supporter, de serrer les dents, ou de ne pas dire parce que ça porterait préjudice évidemment à leur conjoint, mais aussi aux enfants. Pensez aux enfants, madame, ils n'ont pas mérité ça. Ce discours culpabilisant à l'endroit des femmes, il n'est plus acceptable.
Les chiffres sont là pour nous montrer cette défaillance collective. En 2019, il y a eu en France au moins 126 féminicides, recensés par l'agence France Presse, soit une femme tuée tous les 3 jours. La crise sanitaire que nous traversons a-t-elle amplifié le phénomène ? Il est sans doute un peu tôt pour le dire. Mais la secrétaire d'État, Marlène Schiappa, estime que les plaintes déposées pour violences conjugales sont en hausse de 36%. Le Grenelle des violences conjugales, qui a eu lieu à l'automne dernier, a permis des avancées législatives. Le secret médical peut être levé en cas de suspicion de violence. Le bracelet électronique anti-rapprochement est en passe d'être généralisé pour les conjoints violents. Reste l'épreuve du dépôt de plainte.
C'est vrai que quand on convoque l'agresseur dans les services de police, c'est souvent quelqu'un qui présente bien, qui va donner des arguments et puis bien sûr qui va reporter la culpabilité sur la compagne.
Dans ce reportage, Vanessa Descoureaux est allée à la rencontre des femmes victimes de violences conjugales. Elle raconte les difficultés à porter plainte, les policiers parfois réticents, leurs paroles qu'on minimise, les enquêtes qui n'aboutissent pas. Nous entendrons aussi une policière qui a été formée à l'accueil des victimes. Et cela fait toute la différence. Si le nombre de féminicides en France est effrayant, on assiste enfin à une prise de conscience de nos institutions. Violence conjugale, l'épreuve de la plainte, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux, diffusé une première fois le 17 novembre dernier.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Je m'appelle Séverine, j'ai 46 ans et j'ai subi des violences conjugales durant 3 ans.
Est-ce qu'il a été simple de porter plainte ?
C'est pas été évident, j'ai été découragée. Une première fois, je me suis sauvée de la maison, il m'avait arraché ma capuche, il avait été verbalement très très violent, il m'avait un peu bousculée. J'ai voulu aller au commissariat, c'était pendant Vigipirate, donc il y avait des barrières partout devant le commissariat. Et le monsieur qui assurait la permanence m'a gentiment expliqué que plutôt que de porter plainte ou de venir au commissariat, je ferais mieux d'aller voir mon frère qui habite à côté ou mon parrain. Puis qu'il fallait mieux aussi que je retourne chez moi parce que ça pourrait énerver monsieur. Et il a refusé que je rentre dans le commissariat, il m'a demandé de partir. Donc je suis partie, je suis rentrée chez moi. Ça décourage.
La violence a continué
Continuer verbalement, physiquement, de plus en plus.
De plus en plus.
Bousculade, claque de plus en plus forte. Et puis jusqu'à un jour où moi j'étais en stress traumatique depuis plus d'un an. J'avais l'impression que c'était moi qui n'allais pas, alors que c'était de l'autre côté que ça fonctionnait pas bien dans la tête de monsieur. Et un matin, j'ai oublié en fait la clé dans la porte de la maison, à l'intérieur de la maison, il n'a pas pu rentrer. Et puis le matin, il s'est déchaîné sur moi.
À l'ouverture de la porte,
il se rue sur moi. Et là, j'ai une avalanche de coups, j'ai des couvertes de bleu de la tête aux pieds, la lèvre ouverte à l'intérieur. Tout ça devant les yeux de notre petite fille.
Quel âge à l'époque ?
3 ans et demi.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Je suis en larmes, je suis complètement azimutée. Les coups ne se voient pas encore sur mon corps, mais je hurlais, tu n'as pas le droit de me faire ça, tu vas aller en prison, tu vas prendre une amende. Et les voisins appelaient la police. Et au moment où la brigade...
Ce qui aurait dû être votre chance, puisqu'ils appellent la police. Mais là, qu'est-ce qui se passe ?
Là, je vois la brigade arriver. Au même moment, j'étais en train de me défendre et de le gifler. Et là, la police me montre du doigt. « Madame, vous avez giflé monsieur. » Oui, monsieur fait 1m80 kg, madame fait 45 kg pour 1m54. C'est vrai que je vais lui faire très très mal à monsieur. Et là, la police me demande de me calmer, parce que grosso modo, ils ont pensé que j'étais une hystérique, puisque lui, monsieur, se tenait très calmement.
Vous êtes agitée, vous
venez de me faire frapper. Je viens de me faire frapper et lui reste très calme et essaye de me faire passer pour l'hystérique de base qui raconte n'importe quoi. Les bleus ne se voient pas encore, donc on me demande spontanément en me pressant « Est-ce que vous voulez porter plainte ?» Je ne savais pas, j'étais complètement mais dans un état de stress, de nerfs, j'étais complètement bouleversée.
État de choc.
État de choc complet. Et là, la police prend la décision de me mettre dehors de chez moi. Ils m'ont demandé de faire un petit sac. Ils m'ont dit que c'était mieux pour ma fille de rester avec le papa. Et ils m'ont demandé de partir. Ils me raccompagnent jusqu'en bas de chez moi. Une fois que je suis éloignée de l'appartement, la police me demande si j'ai un endroit où aller. Je leur dis oui. Et là, ils s'en vont. En me disant, écoutez, allez faire un certificat médical.
Ce qui sous-entend...
Si je n'affabule pas.
Vous avez senti ça vraiment dans cette patrouille, cette femme hystérique qui s'en prend à son mari et qui délire un peu en gros.
Et qui délire un peu, oui. J'ai l'impression qu'on me prenait pour une folle.
Pas pour une victime en tout cas.
Voilà. Et c'était très déstabilisant. Donc oui, je suis allée à l'hôpital. Là, les blonds commençaient à apparaître. Les coups ont commencé à être vraiment visibles. Les urgences m'ont délivré 8 jours d'ITT. C'était pas rien.
Au lendemain de son agression, Séverine porte plainte. Elle a pris soin de prendre rendez-vous au préalable. Le policier se montre alors très à l'écoute. Comment vous résumeriez pour vous ce parcours face à la police dans votre affaire? C'est-à-dire toujours devoir convaincre que vous êtes la victime, que vous n'êtes pas l'agresseur, toujours devoir convaincre que vous dites la vérité?
Cette froideur, en fait, à toujours douter, on ne sait pas. Donc dans le doute, on ne sait pas si madame est hystérique, on ne sait pas si monsieur l'a tapé, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, donc on reste très froid.
On va pas plus loin.
On va pas plus loin.
On cherche pas à comprendre.
Non, on cherche pas à comprendre.
On se dit pas qu'une victime est forcément en état de choc.
Non, l'état de choc, apparemment, on m'a même reproché de l'être. Il y avait une femme qui était présente, ils étaient 3. 2 hommes, une femme, et c'est la femme qui était la plus dure avec moi, qui m'a regardée d'un air assez méprisant, me disant, maintenant ça suffit, calmez-vous et allez vous nettoyer le visage.
Alors que vous veniez de vous faire frapper.
J'avais pris la raclée de ma vie. Mais visiblement, je n'avais pas le comportement adéquat.
L'ex-compagnon de Séverine a été condamné à 5 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins. Il a la garde partagée de leur fillette.
Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Vous pouvez entrer.
Bonjour, moi c'est Lucie Groussin, militante féministe.
Au printemps dernier, au printemps 2018, un collectif avait lancé une compilation, un recueil de témoignages de femmes qui n'avaient pas pu ou qui avaient eu les pires difficultés à porter plainte. Comment est née cette idée justement de lancer cet appel à témoignages?
On était dans le contexte de l'après MeToo, l'affaire Weinstein, où les femmes ont commencé à beaucoup parler, ou nous, comme on dit, ou plutôt on a commencé à les entendre, et elles parlaient beaucoup sur les réseaux sociaux, et on a commencé à entendre pas mal de personnes qui disaient « C'est bien de parler sur les réseaux sociaux, mais arrêtez un peu de parler, de vous geindre sur les réseaux sociaux, allez porter plainte, allez voir la police. » Nous, on le savait déjà, on avait déjà beaucoup de témoignages, comme quoi beaucoup de femmes étaient mal accueillies à la police. Mais on s'est dit « On va lancer un appel à témoignages pour vérifier cette intuition. »
Combien de témoignages en combien de temps?
Alors, on a eu 500 témoignages en 10 jours. Alors, ce n'est pas une étude scientifique, mais on s'est rendu compte de l'ampleur des témoignages. Donc, 90% témoignaient d'un accueil négatif, que ça avait quand même une valeur et que ça voulait dire qu'il y avait vraiment un problème de prise en charge par la police.
Négatif, ça veut dire refus de plainte, minimisation de l'agression, c'est quoi?
Alors, pour beaucoup de cas, effectivement, c'est un refus de porter de plainte où la personne doit vraiment insister, aller dans plusieurs commissariats avant qu'on prenne sa plainte, ce qui, je le rappelle, est hors la loi. Et il y a aussi différentes choses comme il y a la banalisation des faits. On requalifie un viol en agression sexuelle ou une agression sexuelle en harcèlement. Donc, on banalise les violences. Et il y a aussi ce qui relève de ce qu'on appelle la culture du viol. C'est-à-dire, on demande aux victimes pourquoi elles étaient dans la rue à 3h du matin, à une fille qui a 14 ans, est-ce qu'elle n'était pas un peu aguicheuse, pourquoi elle était habillée ainsi, etc.
Et dans le cas de violence conjugale, on a lu beaucoup de témoignages, c'est une affaire de couple. Pareil, une banalisation, ça doit rester dans le foyer ce qui se passe.
En effet, il y a un problème, on le sait, de formation des policiers. Les policiers ne sont pas notamment formés à l'emprise qui existe dans les cas de violence conjugale, où en fait il faut laisser du temps à la victime qui en moyenne fait 7 allers-retours entre l'extérieur et son domicile conjugal avant de vraiment partir. Donc il faut comprendre qu'une victime, elle va porter plainte. Puis finalement, elle va retirer sa plainte, puis elle va reporter plainte de nouveau. Et si le policier n'est pas formé à ce système d'emprise sous lequel est la victime, il ne va pas comprendre.
J'ai voulu déposer une main courante pour des violences conjugales et familiales. Mon compagnon nous frappait, ma fille et moi. Le gendarme a refusé de me faire rentrer. Il m'a demandé de bien réfléchir et de revenir le lendemain.
J'ai voulu porter plainte pour violences conjugales. On m'a répondu... Vous allez lui ruiner la vie, le pauvre. Pensez à vos enfants.
Lors d'un dépôt de plainte pour violence conjugale, j'ai essuyé un refus de la policière qui m'a dit « Vous l'avez quitté maintenant, ça ne sert à rien ».
J'ai réussi à quitter mon conjoint violent. Après 2 mois de menaces et de harcèlement, j'ai décidé de porter plainte. La policière qui m'a reçue m'a dit « Il faut des ruptures dans la vie. C'est pas la peine de venir porter plainte pour ça, ça va passer. Tant qu'il n'a pas mis ses menaces à exécution, on ne peut rien faire ».
On va rencontrer Anne Bouillon, c'est une avocate au barreau de Nantes. Elle est spécialiste dans le droit des femmes, dans le droit des victimes. C'est une avocate qui se définit elle-même comme engagée, comme militante même.
Deuxième étage.
Est-ce que nos textes de loi, notre code pénal est assez adapté pour protéger ces femmes en situation de violence ?
La loi est quand même pas mal faite, oui. Il y a à peu près tout ce dont on a besoin, tant sur le plan de la répression, de la sanction que de la protection. Mais la vraie question, c'est de s'en servir. Le législateur a fait son travail, on peut améliorer sa copie, mais il faut d'abord se saisir de ces outils-là. Si ça dysfonctionne, c'est que nos pratiques sont pas les bonnes. Concrètement, ça veut dire que c'est encore un parcours de la combattante. Dès lors qu'une femme décide de sortir de l'emprise des violences, qu'elle décide de quitter son domicile, là où elle devrait tout de suite protéger et elle devrait pouvoir avoir un accès à la police pour la protéger, à la justice pour lui rendre justice, aux avocats pour la défendre, eh bien, si elle n'était pas étayée par des associations de terrain qui sont extrêmement efficaces, elle se retrouverait bien seule, voire à subir une double violence, qui est cette violence institutionnelle qui peut lui être renvoyée.
On a beaucoup parlé, y compris dans ce reportage de formation, mais est-ce que c'est le maître mot pour autant, pour changer les choses ?
C'est très important, la formation. La formation, c'est important parce que ça permet de comprendre ce que sont les violences et c'est un mécanisme qui n'est pas forcément intelligible de prime abord si on ne sait pas ce que c'est que l'emprise. J'ai défendu une femme devant la cour d'assises récemment dont le mari était poursuivi pour viol conjugal et harcèlement. Lorsqu'elle est allée déposer plainte une première fois, le gendarme lui a dit « Madame, rentrez chez vous » et puis le viol conjugal, on ne peut pas le prouver. Et puis peut-être qu'il vous aime trop et qu'il vous aime mal, rentrez chez vous. Après avoir encore subi des violences, elle a eu le courage de retourner dans la même brigade de gendarmerie, alors que franchement, elle aurait pu ne plus vouloir pousser cette porte. Elle est tombée cette fois sur un gendarme formé. Aujourd'hui, son mari dort en prison. Voilà la différence. Et c'est une différence absolument indispensable. C'est nécessaire, mais pas suffisant, pour répondre à votre question. C'est-à-dire que bien...
Qu'est-ce qu'il faudrait en plus, justement ?
Eh bien, une volonté politique. Il faudrait qu'on ait une intolérance absolue à la violence. Qu'une claque, c'est déjà de la violence. Que c'est pas acceptable. Que des insultes, c'est déjà de la violence. Alors, il s'agit pas de mettre tout le monde en prison, hein. Et moi, j'ai trop vu dans les dossiers des situations où on demandait aux femmes de supporter, de serrer les dents, ou de penser aux enfants, madame, ils ont pas mérité ça. Ce discours culpabilisant à l'endroit des femmes, elle est plus acceptable.
D'autres personnes se demandent si ce que vous racontez à propos de votre viol est bien la vérité.
Alors, Marie, dites-nous.
On ne vous laissera pas partir tant que vous n'aurez pas répondu.
Comme je vous l'ai dit, il y a des incohérences dans vos différentes déclarations.
Dites-le. Marie.
Je sais plus. C'est embrouillé.
Marie.
Non.
France Inter, Interception.
Alors, maintenant, on est devant le commissariat de Nantes et on va y rencontrer une policière qui est chargée de l'accueil des victimes et on va lui demander si son métier est vraiment différent de celui de ses collègues qui sont, eux, plus généralistes. On rentre dans le commissariat. Un sas de sécurité.
Madame.
Absolument.
Christelle Cheval. Enchantée.
D'entrée de jeu dans le hall, comme ça.
Bah oui, à cette heure-là, j'ai fait mieux normalement. Donc
c'est la ponctualité, là.
En tout cas, merci de me recevoir.
Je vous en prie. Donc voilà, c'est là que ça se passe, hein, pour vous expliquer un petit peu. Donc, nos trois bureaux.
Le bureau de la policière et ceux de ses collègues, une psychologue et une assistante sociale du département.
Bureau au rez-de-chaussée, pas très loin du guichet d'accueil pour des soucis, j'imagine, d'orientation rapide, c'est ça ?
Tout à fait, ça a été voulu. Avant, on était un petit peu dispersés, c'était moins pratique. Donc ça permet aux collègues, quand ils accueillent une victime et qu'ils pensent qu'elle a besoin de nos soins, eh bien directement de recevoir la personne en direct.
Je suis Christelle Cheval, brigadier de police à l'hôtel de police de Nantes, au bureau d'aide aux victimes.
Dans ce bureau d'aide aux victimes, vous ne prenez pas, vous, les plaintes. C'est pas ici que ça se prend. Vous écoutez, vous orientez, vous faites quoi ?
Tout à fait. Justement, on explique, on essaye d'être pédagogue. Ce que je dis, j'ai trouvé cette formule pour décrire le bureau d'aide aux victimes. C'est un peu comme un magasin, entrée libre, sans obligation d'achat. C'est-à-dire, la personne, on va lui expliquer. Voilà, effectivement, ce que vous avez vécu, au-delà d'être désagréable, il y a une infraction pénale qui est caractérisée. Donc, vous pouvez déposer plainte. Qu'est-ce que c'est une plainte ?
Comment vous expliquer ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est et quelles sont les conséquences.
Absolument, c'est toute la démarche de la plainte. Beaucoup de gens vont dans les commissariats pour déposer plainte pour tout et rien, hein, tout fait, sans savoir ce qui se passe derrière. Donc ce que j'explique, c'est que voilà, elle va devoir raconter son histoire dans les moindres détails. Éventuellement, on va lui demander de se rendre à l'hôpital pour faire un certificat médical auprès de l'unité médico-judiciaire. Et puis surtout, c'est que le mise en cause, hein, la personne qu'elle dénonce, va être entendue. Ça, c'est souvent une crainte. Je veux pas que la personne sache. Eh bien non, c'est impossible.
Dans le cas de violences conjugales, par exemple, vous avez des femmes qui vous racontent leurs histoires, souvent douloureuses, mais elles vont avoir cette réticence-là. Mais je veux pas qu'il aille en prison, je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Vous avez ça aussi dans ce bureau ?
Bien évidemment. Donc tout l'intérêt de ce bureau, c'est d'expliquer que nous, on peut à aucun moment dire oui, il va être sanctionné, non, il va aller en prison, il va sortir de garde à vue. Seul le procureur a l'opportunité des poursuites. C'est ce qu'on prend le temps d'expliquer. Donc c'est bien trier ce qui peut apporter du poids à ce dossier pour qu'on ait un maximum d'éléments pour que le procureur par la suite puisse prendre une décision.
Et une fois que la décision est vraiment prise de porter plainte, d'aller au bout de la démarche, vous envoyez ces femmes vers vos collègues qui vont prendre la plainte. Mais vos collègues généralistes.
Voilà, mais c'est dans un deuxième temps. On prend souvent, après l'élaboration d'une trame, on demande aux dames le temps de la réflexion, qu'elles peuvent quelquefois rajouter quelques éléments qu'elles auraient oubliés lors de notre rencontre.
Il est vraiment pas question de dire il y a les bons et les mauvais policiers sur ces questions-là, mais il y a les policiers formés et ceux qui ne le sont pas. Ça, c'est une évidence ?
C'est effectivement une évidence. Hein. J'ai commencé comme tout policier sur la voie publique, je suis intervenue, j'ai pris des plaintes. J'ai aussi, moi, eu du mal à comprendre pourquoi ces femmes venaient déposer plainte et puis le lendemain venaient retirer ces plaintes. Les violences conjugales, c'est vraiment un mécanisme qu'il faut comprendre, il faut s'en imprégner pour apporter un maximum de confort et de réconfort, hein, souvent, lorsque l'on reçoit ces victimes.
Mécanisme pour comprendre la victime et pour comprendre l'agresseur aussi.
Absolument, ça va de pair. Souvent, alors je ne veux pas faire des généralités sur les agresseurs, hein, il y a plusieurs types, mais c'est vrai que quand on convoque l'agresseur dans les services de police, c'est souvent quelqu'un qui présente bien, qui va donner des arguments et puis bien sûr qui va reporter la culpabilité sur la compagne. C'est vrai que quand j'ai commencé dans la police il y a presque 30 ans, j'étais plus intéressée pour attraper les auteurs. Aujourd'hui, quand je vois comment ça fonctionne, je me réjouis d'être au service des victimes.
C'est peu dire qu'il a mal choisi son jour, ce gendarme, pour refuser d'aider une femme battue qui venait de déposer plainte.
Le jour du lancement du Grenelle des violences conjugales, Emmanuel Macron visite les locaux du 3919, le numéro d'écoute et de soutien.
Et le président est alors témoin d'un appel qui va profondément le choquer.
Cette dame, 57 ans, au bout du fil, en détresse, elle demande à un gendarme de l'accompagner chez elle pour récupérer ses affaires, mais le militaire refuse catégoriquement.
Il ne sait pas que le chef de l'État l'entend et répond que ça n'est pas dans le code pénal.
Une enquête interne pour défaillance est donc ouverte par la gendarmerie.
Sollicité plus de 3 mois avant la diffusion de ce reportage et donc bien avant l'incident en présence d'Emmanuel Macron, la gendarmerie ne nous a pas permis de suivre l'un de ses référents sur les violences intrafamiliales.
Depuis cet incident, 10 000 policiers sont en cours de formation pour devenir des référents accueil.
Appel en cours.
Et puis il y a ce portail de signalement des violences sexuelles et sexistes lancé il y a presque 2 ans. Ce portail est accessible sur le site service-public.fr. Les femmes victimes de violences peuvent témoigner par écrit. Et ce sont des policiers, volontaires, formés et accompagnés d'une psychologue qui leur répond.
Bonjour, je suis Vanessa Descoureaux de France Inter. J'ai rendez-vous avec la commandante Sandrine Masson du portail de signalement des violences sexistes ou sexuelles.
C'est ça ?
Absolument.
Ok, allez-y, entrez.
Cette plateforme d'écoute est située au dernier étage du commissariat de Guyancourt, dans les Yvelines. Et c'est là que nous retrouvons Vanessa Descoureaux.
On est dans une pièce très studieuse, très calme, 5 postes de travail, 3 opérateurs, 2 opératrices, 1 opérateur en ce moment, en train de répondre à des chats. Ça se présente comme un chat on ne peut plus conventionnel, un messenger, un WhatsApp classique.
Donc là, je viens de recevoir un chat. C'est une personne qui me dit qu'elle pense avoir subi un viol par son ex-ami. Donc je vais lui demander un peu d'expliquer la situation et pourquoi elle pense avoir subi, donc un peu expliciter ce viol ou pas. Donc j'attends sa réponse.
Donc je lui dis bien que je ne la jugerai pas, peu importe ce qu'elle me dit. Des fois, ça peut être gênant, des choses gênantes. Donc je lui dis que je ne la juge pas et que je suis là pour l'écouter et pour l'orienter, l'aider. Donc il n'y a pas de souci avec ça.
Est-ce que je peux vous poser des questions à vous deux qui n'êtes pas en chat et si vous avez quelque chose
Je suis Jordan, je suis opérateur à la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes et je suis en poste depuis un peu plus d'un an maintenant.
Est-ce qu'il y a quelque chose de plus froid justement dans le côté virtuel quand on a une victime en face de soi? J'imagine que ce n'est pas la même chose ou au contraire c'est une autre forme de mise en confiance?
Je ne dirais pas que c'est plus froid. Après c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la personne quand on l'a en face. C'est peut-être plus facile aussi pour nous parce que l'écrit, on a plus de temps pour réagir, pour répondre.
Et pour la victime aussi, c'est plus confortable d'être anonyme aussi. Ça, vous le ressentez dans la liberté de ton qu'elles peuvent avoir?
Oui, on le ressent parce qu'elles vont forcément plus se confier que si elles se rendaient à l'accueil du commissariat, devant le public. Et puis tout simplement face à un policier, c'est pas toujours évident de se confier. Donc là, c'est un premier pas pour... Tout simplement pour pouvoir dire des choses pas toujours évidentes à dire.
Quand vous avez une conversation qui va commencer, que vous voyez qu'il s'agit de violences conjugales, c'est quoi le but pour vous? D'amener la victime jusqu'à la plainte ou est-ce que ce n'est pas forcément l'objectif à atteindre? C'est quoi le vôtre d'objectif?
L'objectif, c'est principalement déjà de comprendre ce que vit la victime, de l'aider, qu'elle sente qu'on est là pour l'aider. Et puis à partir de ce qu'elle va nous dire, justement, on l'oriente alors soit vers le dépôt de plainte, parce que c'est important qu'elle dépose plainte en tant que victime, ou vers des pôles psychosociaux, ou aussi des associations. Donc nous, le but premier, c'est que la victime reparte en ayant une réponse à ses questions, tout simplement, et puis avoir eu l'impression d'être entendue.
Si ça va jusqu'au dépôt de plainte, elle doit donc lever l'anonymat. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le commissariat de sa zone pour lui prendre un rendez-vous? Comment ça se passe?
Alors, donc ça fonctionne de telle manière qu'on effectue un signalement. Dans ce signalement, on joint un rapport administratif avec la conversation de la victime ou du témoin. Et puis, on remplit une fiche de signalement en précisant tout ce que la personne nous a dit. Et on envoie ça au commissariat sous forme de mail. Et par la suite, il rappelle la victime pour lui proposer un rendez-vous.
Qu'est-ce que ça veut dire pour la victime, ça, justement, d'avoir un rendez-vous? C'est de ne pas se présenter au guichet, éviter de redire et redire son histoire?
Exactement. Pour la victime, c'est beaucoup plus facile, déjà, de savoir que quand elle va franchir la porte du commissariat, elle a déjà un rendez-vous, un fonctionnaire de police est là pour l'écouter, qui plus est formé spécifiquement pour ce type d'infraction. Psychologiquement, c'est plus facile pour elle de franchir la porte du commissariat.
Depuis le début de la journée, là, vous avez eu à peu près combien de conversations, de chats?
Alors, si on prend toutes les conversations, il me semble qu'on a eu 13.
Combien relatives à des violences conjugales?
Alors, moi, aujourd'hui, j'ai eu 2 conversations qui avaient attrait aux violences conjugales.
C'est votre tour.
Eh ben super, allons-y.
Ben, on n'a pas besoin de fermer la porte parce que vous dirigez un service extrêmement silencieux et calme. Donc on peut faire sa porte
c'est
ouverte.
Ça pratique le chat aussi. Hein. Ça, moi, ça me change.
Alors donc, je suis le commandant Sandrine Masson, chef du portail police de signalement des violences sexuelles ou sexistes.
Selon vos estimations, à peu près un tiers des conversations ici sont relatives aux violences conjugales. En quoi, selon vous, l'écrit est peut-être moins intimidant qu'une plateforme téléphonique ?
Tout comme certaines personnes sur les réseaux sociaux ou de manière virtuelle peuvent être un peu plus virulentes ou un peu plus se confier, les victimes derrière leur écran peuvent plus se confier, plus expliquer ce qu'elles ont ressenti ou ce qu'elles ont subi.
Est-ce qu'il n'y a que des victimes qui vous sollicitent, qui viennent chatter avec vous ou des témoins également ?
Alors nous avons également des proches de victimes qui viennent se renseigner. Nous avons également de nombreux témoins qui entendent ou sont témoins de violences conjugales qui viennent nous signaler les faits pour que nous puissions envoyer des patrouilles de police sur des immeubles où pourraient se passer de possibles violences conjugales.
Pourquoi ils n'appellent pas le 17 ?
Très certainement pour l'anonymat du portail de signalement, en se disant que s'ils appellent le 17, on aura probablement plus leur numéro de téléphone, leurs coordonnées. Ils ne veulent pas non plus rentrer trop dans l'intimité de leur voisin.
Le voisin violent peut avoir son nom s'il y a procédure.
C'est exactement cela, par peur de représailles. Ils préfèrent l'anonymat du portail.
Les conversations qui sont entamées entre les opérateurs et les victimes peuvent être très longues parfois. Ça, c'est du temps qu'on ne peut pas envisager, par exemple, sur le terrain en commissariat. Il n'y a que vous qui pouvez vous permettre ce temps long aujourd'hui ?
Alors, c'est vrai que quand on est sur la voie publique ou quand on est en commissariat, cela se fait un peu plus rapidement, on a peut-être un peu moins de temps à consacrer aux victimes, en tout cas à l'écoute et à la libération de cette parole. Ici, nous sommes là pour ça aussi. Nous sommes là pour les aider, les écouter. Donc, nous prenons du temps avec elles. On leur laisse à chaque fin de conversation le numéro du chat pour qu'elles puissent revenir et nous indiquer qu'elles sont déjà venues précédemment et qu'on puisse retrouver la première conversation pour ne pas lui redemander l'ensemble des éléments qu'elle a pu nous indiquer la première fois. Si elle a besoin de ce temps-là et si elle a besoin de revenir 3, 4, 5 fois, on l'écoutera 3, 4 ou 5 fois.
Des policiers formés, il y en a dans les brigades de protection de la famille, des unités spécialisées sur les violences faites aux femmes. Nous avons joint un officier de police judiciaire qui travaille en région parisienne. Sans accepter la présence de notre micro, il raconte les conditions de travail de sa brigade. Un service pas loin d'être décimé, ils étaient 6 il y a 2 ans, 4 désormais, bientôt 3 après un départ non remplacé. Pour 600 dossiers, 600 enquêtes à mener, sans compter les flagrants délits. Il décrit des enquêtes forcément plus longues, témoigne d'une frustration que l'on perçoit très vite et d'une usure qui fatigue son équipe. Le système est engorgé, dit-il. J'aimerais vous dire qu'on bosse bien, conclut ce policier. J'aimerais, mais on n'en a pas les moyens.
Est-ce que vous savez qui a tiré ?
C'est mon mari ! Je suis avec mon fils. Antoine, arrête !
Calmez-vous, madame. Est-ce que vous avez une pièce qui ferme à clé ? D'accord, allez-y avec votre fils et vous enfermez dedans.
Il est entré.
D'accord, madame, vous allez m'écouter. Est-ce que vous avez une baignoire ?
Oui.
Allez-y avec votre fils et vous allongez dedans. Mettez-vous à l'abri.
Mets-toi dans la baignoire. Vite. Couche-toi. Couche-toi.
Madame, vous restez au fil avec moi. D'accord ? Vous n'êtes pas seul. Je reste avec vous. Je suis avec vous, madame. Vous inquiétez pas. Les policiers vont arriver.
Une seconde alors. Bientôt fini, madame.
Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments. Je ferai des promesses que je ne saurais tenir. Te couvrirai de coups juste pour te retenir. Si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Triste aléa du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu. tu le contrôles. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos? Si j'étais un homme, mais je ne le suis pas.
Interception sur France Inter.
Nous sommes avec Lucie, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 35 ans et il y a un an de ça, vous avez été victime de la violence de votre ex-compagnon qui vous a littéralement roué de coups, ce qui a déclenché et amené pour conséquence 15 jours d'ITT. Pour vous, le dépôt de plainte s'est bien passé parce que vous avez été bien orienté, vous êtes tombé entre les mains de policiers spécialement formés, donc souvenir assez correct dans cette douloureuse épreuve, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai été reçue par deux policières formées aux violences conjugales et j'ai été extrêmement bien reçue. Elles ont vraiment pris le temps de m'écouter et j'ai reçu un énorme soutien de leur part.
C'est après que ça se passe beaucoup moins bien pour vous. On ne va pas rentrer dans les détails de la procédure, mais comment ça se passe ?
Bon, il y a eu un transfert de dossier. Je fais un suivi extrêmement régulier auprès du commissariat qui me dit clairement que mon dossier n'est pas prioritaire et que je ne peux faire qu'attendre et il n'y a aucun recours possible.
Ça, vous l'entendez, ce n'est pas prioritaire, madame, merci de nous laisser tranquille en gros.
Oui, tout à fait, c'est ce que j'entends. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on minimise complètement l'acte. Quand je fais le suivi de plainte, j'ai l'impression que j'ai porté plainte pour rien. On classe comme une engueulade qui s'est mal passée, comme un couple dysfonctionnant qui devait rompre, etc.
Rappelons que vous avez eu des côtes cassées et 15 jours d'ITT.
Exactement, voilà. Et voilà, moi je sens énormément de minimisation. Et moi ce qui me renvoie en tant que victime, entre guillemets, c'est de la culpabilité. C'est le fait que, oui, effectivement, j'ai peut-être porté plainte pour pas grand-chose, étant donné que je suis pas prioritaire pour la police. Aujourd'hui, je suis désemparée parce que je ne suis pas prise au sérieux.
Il faut préciser que vous avez porté plainte plusieurs mois après les faits, justement, parce qu'il fallait le temps de digérer les choses, d'encaisser toute cette violence. Quand vous prenez cette décision, qu'est-ce que vous recherchez par cette plainte ? Quel est le but de votre démarche ?
Une reconnaissance d'un acte qui n'est pas acceptable et qui est pénalisable. Et j'aimerais en retour... Voilà, d'être prise en compte et d'être écoutée. Je pense qu'en effet, il y a plus grave et ils priorisent le flagrant délit, voilà, ou des cas. Moi, je leur dis, hein, je m'excuse de ne pas être morte, hein, mais j'aurais très bien pu. Alors là, peut-être que j'aurais été prise au sérieux. Et encore.
Il y a une réponse à une phrase aussi forte que celle-ci ?
Non.
Merci madame, au revoir.
Alors oui, de temps à autre, on est désolé, etc., etc. Mais bon, à un moment donné, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
Combien de temps vous pourrez attendre comme ça, là, dans le vide, quasiment ?
Je sais pas, parce que ce qui me permettrait de tenir, c'est de combattre. Quand on est au niveau de la justice, on peut prendre un avocat. Mais dans ce cas d'attente auprès des flics, il y a rien, il y a aucun dispositif qui permet d'avoir un recours possible. Donc, on nous dit dès le départ, quand on porte plainte, qu'il ne faut pas attendre le traitement de la plainte et ni le procès pour se reconstruire, hein, parce qu'on sait très bien que ça met du temps. Mais quand même, ça aide. Moi, quand j'ai porté plainte, quand je suis sortie du commissariat, j'étais épuisée, parce qu'on pleure beaucoup, parce que c'est éprouvant. Mais en revanche, je me sentais bien parce que j'avais été prise au sérieux. Et là, depuis, j'ai absolument pas ce sentiment. Et ça m'attriste, ça m'énerve, mais j'ai aucun moyen, aucun recours.
Impuissance, toi.
Impuissance, oui, c'est ça. Impuissance.
Comme on vient de l'entendre, porter plainte n'est pas une assurance tout risque pour les femmes victimes de violences conjugales. Selon une enquête du journal Le Monde, publiée en octobre dernier, un tiers des 120 femmes tuées en 2018 par leur conjoint ou ex-conjoint avaient porté plainte. C'est donc dans tout le processus judiciaire qu'il y a des failles et une incapacité à protéger les femmes victimes. Nous retrouvons Vanessa Descoureau dans le département du Doubs, où une mère de famille a été tuée par son ex-mari en octobre 2018.
Bonjour.
Bonjour.
J'ai rendez-vous avec Madame Perrault, je suis de France Inter.
Nous allons entrer dans les locaux de Solidarité Femmes à Besançon, dans un quartier assez pavillonnaire de la ville. Cette association s'occupait de Razia Askari, une femme de 34 ans, morte, assassinée de plusieurs coups de couteau assénés par son ex-compagnon. C'était il y a un tout petit peu plus d'une année. Alors que pourtant, Razia avait fait tout ce qu'il fallait faire pour être en sécurité, en théorie. Elle avait déposé 7 plaintes, 3 à Marseille, 4 ici à Besançon. Elle a même bénéficié d'une ordonnance de protection. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que c'est un dispositif qui est assez peu utilisé en France, mais très largement réclamé par les mouvements, par les associations féministes. Mais de protection, il n'y a eu que le nom. Razia est morte et sa parole face aux forces de l'ordre a toujours valu moins que celle de son assassin.
Alors, je suis Christine Perrault, présidente de l'association Solidarité Femmes à Besançon. Son ex-conjoint l'ayant approché malgré cette ordonnance de protection, Razia a à nouveau déposé plainte le 2 août. Bien, l'agent de police a pris sa plainte. Elle a ensuite, 8 jours après, voulu rencontrer les enfants pour avoir leur version des faits. Malheureusement, elle ne pouvait pas recevoir à nouveau Razia et enregistrer une nouvelle plainte. Elle allait partir en congé. Les choses se compliquaient.
La policière reçoit son ex-conjoint ?
Elle l'avait reçu. Ce jour-là, nous avions une de nos salariées qui accompagnait Razia. Notre salariée s'est entendue dire à elle et à Razia qu'elle émettait des doutes sur la version de Razia et que c'est pour ça qu'elle voulait connaître la version des faits par les enfants. En revanche, par la suite, la police a un petit peu enquêté, a visionné des vidéos dans les arrêts de tram, c'est là où elle disposait d'un lieu où elle pouvait contrôler des allées et venues, et ils ont assisté à une discussion entre monsieur et madame pour laquelle ils n'avaient pas de son, mais au cours de laquelle madame se montrait véhémente en face de monsieur. C'est leur traduction de ce qu'ils ont vu sur la vidéo.
Cela dit, sur cette vidéo, il est bien en face de Razia, son ex-conjoint, alors qu'il n'a pas le droit d'y figurer, puisqu'il faut le rappeler, il y a une ordonnance de protection, c'est-à-dire qu'il a l'interdiction de l'approcher, elle et les enfants. C'est bien la preuve qu'il était en face d'elle.
Tout à fait, ce qui aurait motivé qu'on le recherche, parce qu'il n'avait aucune raison d'être à Besançon, il n'avait aucune autorisation d'y aller.
Il ne résidait même pas ici.
Il ne résidait pas à Besançon, il devait s'éloigner de madame, c'était déjà une première occasion de le retrouver, de le convoquer devant un tribunal pour non-respect surtout de l'ordonnance de protection, ce qui aurait pu lui valoir 15 000 euros d'amende, 2 ans de prison, pour simplifier.
Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'inverse ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune nouvelle. Ce qui fait que, courant octobre, nous avons eu un nouvel appel de Razia disant « les faits se reproduisent, nous renouvelons la demande de dépôt de plainte ». On ne nous répond pas. Et puis, le 18 octobre, très précisément, nous relançons notre demande et nous appelons l'agent de police, nous redemandons à nouveau un rendez-vous. Et le 30 octobre, elle est assassinée, c'est-à-dire 12 jours après.
Son mari est très vite suspecté du meurtre. Il l'aurait suivi avant de la poignarder. Dans le centre-ville de Besançon, 400 personnes s'étaient rassemblées pour rendre hommage à la jeune femme.
Quand les femmes seront-elles aussi importantes que les hommes ?
Sa parole n'a jamais été crue. Malgré 7 plaintes, malgré une ordonnance de protection, malgré le déroulé que vous venez de nous préciser, jamais elle est prise au sérieux ?
Non, elle n'est pas prise au sérieux. Les demandes des personnes qui travaillent dans notre association et qui l'accompagnent non plus. C'est ce qui a motivé vraiment notre réaction et nos demandes très fortes. Écoutez la parole des femmes, écoutez la parole des travailleuses sociales qui prennent en charge les femmes. Écoutez les femmes.
En 2018, dans le département du Doubs, 2 femmes sont mortes sous les coups de leur ex-compagnon, dont Razia, bien évidemment. 2 féminicides en 5 jours. Et là, on file à la préfecture du Doubs pour voir quelle a été la réponse de l'État.
Joël Mathurin, préfet du Doubs.
Très peu de temps après la mort de Razia Askari, vous convoquez ici en préfecture tous les acteurs, policiers, judiciaires, associatifs, hospitaliers. On a même dit ici que c'est un mini Grenelle départemental. Pourquoi vous avez fait ça aussi vite ?
La suite, ça a été quand même un moment de tension entre les différents acteurs. Nous avons eu du mal à avoir le moment de recueillement et puis le moment autour de la mémoire, puisque ça a été très vite un moment de tension entre les différents acteurs. C'était quelqu'un qui était une personne qui était hébergée dans nos structures d'hébergement d'urgence, qui était prise en charge donc dans le réseau, et puis cet échec tragique. Et donc avec monsieur le procureur de la République, nous nous sommes dit qu'il faut vraiment faire quelque chose et dans l'urgence. Je dois dire que la réunion du 19 novembre était une réunion avec beaucoup de tension. D'abord parce que il y a quand même eu cette tragédie.
On est 3 semaines après le mort de Ria.
3 semaines après, oui. Et la première heure, je me suis demandé si j'allais pouvoir terminer la réunion dans les meilleures conditions, parce que les forces de l'ordre qui sont pris à partie, le monde associatif lui-même, en son sein, on sent les tensions. Finalement, au bout de la première heure, nous nous sommes collectivement dit que la réponse, la bonne réponse, notamment en mémoire de Razia, ce serait une mobilisation collective. Et d'essayer d'avoir une culture partagée. Donc c'est ça l'objectif, et ça a été la conclusion de notre réunion du 19 novembre, avec la mise en place de groupes de travail, où tout le monde s'engageait à participer, et puis de temps d'échange, de formation sur les métiers, où chacun raconte à l'autre ses difficultés, ses contraintes, les enjeux aussi, et pour voir au fur et à mesure le changement de posture.
Au-delà de tout ça, de cette culture partagée, est-ce qu'il y a des choses très concrètes qui ont changé en commissariat, par exemple ?
Alors oui, absolument. Commissariat en gendarmerie. Donc nous avons des personnes qui ont été nommées comme étant référents. Nous avons eu des personnes qui se sont formées, tous. Formées, je veux dire, de façon partagée. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de formation, de partage entre le monde associatif, les associations, les policiers qui font de l'accueil, les gendarmes qui font de l'accueil et les travailleurs sociaux. Ils se sont formés tous ensemble comment mieux accueillir et comment assurer, réussir la première prise en charge.
Des gens qui seront amenés à travailler ensemble ensuite.
Des gens qui sont amenés à travailler ensemble ensuite. Sur des cas d'école, d'études de cas. Madame appelle, finalement elle n'est pas en danger parce que monsieur s'est endormi après les 3 gifles. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on traite? Est-ce que c'est la police qui prend en charge? Est-ce que ce sont les travailleurs sociaux? Est-ce que c'est le monde associatif? Voilà. Donc autour de procédures, de cas concrets. À la police ou à la gendarmerie, désormais, donc, les conditions d'accueil ont été examinées, donc sur le fait qu'on puisse avoir, par exemple, un bureau dédié, un lieu dédié pour pouvoir prendre en charge les personnes.
Ce qui n'était pas forcément le cas avant?
Non, pas forcément, absolument. Qu'on puisse avoir, donc, aussi les réflexes. Madame ne veut pas porter plainte, mais on ne s'arrête pas là, sans qu'il y ait d'angle mort. On passe l'information donc aux autres réseaux et on s'assure, dans une logique de réseautage, qu'il y a une suite.
Merci beaucoup. Nous sommes avec Julie. Vous êtes éducatrice spécialisée ici à Solidarité Femmes à Besançon. Est-ce que les choses ont changé après la mort tragique de Razia ?
Oui, clairement. Il y a eu un avant et un après, à la fois dans nos rapports avec les services de police, et puis dans les retours qu'on a des dames par rapport aux conditions de dépôt de plainte. Je peux malheureusement pas vous dire qu'on a aucun retour négatif depuis, mais les progrès sont nettement en cours. Voilà, il y a des choses qui, nous, dans notre travail, qui sont extrêmement facilitées. Parce
comme
que,
quoi, par exemple ?
Il y a eu la mise en place d'une référente violence intrafamiliale au commissariat, qu'on peut contacter très facilement, qui nous accorde facilement aussi des rendez-vous et qui est, on va dire, davantage à l'écoute que les contacts qu'on avait auparavant. Et je dirais que on avait déjà avant, mais c'était aussi très très fort pendant l'été 2018, le sentiment de ne pas du tout être légitime. Nous, en tant que travailleurs et travailleuses sociales, on a quand même une certaine expérience de terrain, une certaine expertise aussi par rapport à la question des violences et l'évaluation du danger. Et on a quand même eu souvent, régulièrement, le sentiment de ne pas être prise au sérieux, d'être prise pour, entre guillemets, des hystériques qui s'agitent pour rien. Et donc ça, c'est quelque chose qui a quand même assez évolué. C'est-à-dire que dans les contacts qu'on a désormais avec la police, on sent qu'il y a une plus grande prise en compte des alertes qu'on peut transmettre en termes de danger.
Avant, vous paniquiez pour pas grand-chose, si je résume ?
Oui, c'était un petit peu ça. Ouais. On s'agitait pour rien. Ça, c'est une phrase qu'on nous a déjà dite.
Ah, déjà entendu ça.
Ouais, tout à fait, mot pour mot. Et voilà, là, on va dire que on est plus facilement entendu. Clairement, entre l'avant 30 octobre 2018 et l'après 30 octobre 2018, il y a une vraie différence. Moi, je le ressens dans mon travail. Ce qui nous paraît ajouter beaucoup de difficultés aux femmes dans le moment du dépôt de plainte, c'est les conditions d'accueil qui, à mon sens, sont dues aussi à une surcharge de travail pour les policiers. Il y a vraiment un manque de personnel au niveau des policiers qui, parfois aussi, on a ces retours-là, entendent de leur hiérarchie, pourquoi t'as pris cette plainte-là ? C'est que des violences psychologiques. Et donc, nous, ça nous paraît très grave que les violences psychologiques soient pas prises en compte à la juste valeur de gravité qu'elles représentent, parce que les violences psychologiques, elles peuvent aussi mener à des coups, et elles peuvent aussi mener à des tentatives de meurtre, voire à des meurtres. Ça arrive très régulièrement que des femmes nous disent maintenant que j'ai déposé plainte, une fois, il me tape plus, comme ça, il n'y a plus de traces. Mais je crois que je préférais quand il me tapait, parce qu'il me parle tellement mal, il les met tellement plus bas que terre, que finalement, ces violences psychologiques, elles ont un impact, on va dire, sur le long terme, beaucoup plus profond et qui nécessite un travail de reconstruction de soi-même, sur l'estime de soi, etc., vraiment plus important. Et donc, c'est vraiment très, très dommage que les policiers, les plaintiers, les plaintières aient des retours comme « ça, c'est pas des violences conjugales, ça, c'est pas des vraies violences, faut pas les prendre », alors que ces faits-là, ils sont très graves en termes de conséquences.
Violence conjugale, les preuves de la plainte, c'est un reportage de Vanessa Descoureaux, réalisé par Sonia Leglen, assistée de Martine Messonnier. La semaine prochaine, reportage sur ces écrans qui capturent nos enfants.
Il était une fois ou mille, un homme comme toi, un homme tranquille, qui dans un désir violent et soudain, femme varie.